Peut-on construire une identité queer à travers le jeu de rôle? Qu'est-ce qu'un jeu queer et quels univers narratifs il convoque? Pourquoi c'est pas si évident d'en parler? Vous êtes sur Radio Rôliste, ici Momi et je suis accompagnée de Crystal, Mist et Farfa pour essayer de répondre à toutes ces questions et bien plus encore dans cet épisode dédié aux représentations et au vécu LGBTQIA+ dans le jeu de rôle. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table, du coup, pour situer qui on est et d'où on parle?
Je m'appelle Crystal, je suis artiste et je suis chercheuse en art sonore et aussi un peu en game studies. Moi, j'ai commencé à jouer aux jeux de rôle plutôt à partir du confinement et je joue principalement que en ligne et avec des jeux dans lesquels il y a rarement des dés à lancer et très peu de règles et peu de MJ aussi.
Moi, c'est Farfa. Je vais être surtout là en tant que joueuse. Et je joue depuis le confinement. J'ai joué un peu avant, quand j'étais jeune adulte. Et je joue un peu à tout, mais plus des jeux du commerce, on va dire, que des jeux indés. Et beaucoup en ligne, y compris à l'écrit, et aussi au sein d'une asso. Voilà.
Bonsoir, moi c'est Mist. Je joue au jeu de rôle depuis assez longtemps. J'ai commencé un peu avant le lycée, mais c'était des jeux un peu classiques. Puis j'ai repris un peu plus tard et je joue au même type de jeu que Crystal. Et donc surtout en ligne depuis 2021, je dirais.
Moi c'est Momi, auteur et médiateur en jeu de rôle, d'après Crystal bien sûr. Aussi, je m'intéresse à la théorie du jeu de rôle, dans un but un peu de recherche aussi, quoi. Enfin, moi, je fais pas de la recherche, Crystal fait de la recherche. Anyway, on crée aussi du contenu audio, podcastique autour du jeu de rôle, essayer d'effacer certaines barrières dans ce qu'on peut raconter en fiction et, en fait, comment on peut raconter des histoires différemment selon différents moteurs de jeu, on va dire. Je fais aussi du tradi. Un petit peu, ça m'arrive d'être meneur. Donc, voilà, plein de choses et plein de types de jeux différents.
Peut-être que pour commencer, on pourrait expliquer que c'est pas le premier enregistrement qu'on fait et qu'on a trouvé ça pas forcément simple de raconter et partager nos expériences et nos points de vue sur les questions LGBTQIA+ dans les jeux de rôle. Pourquoi est-ce que c'est pas si simple de parler de ça?
Ça peut être compliqué parce que on n'est pas forcément sûr de mettre tous la même chose derrière les termes. Moi, je peux assez facilement avoir peur d'être maladroit, de dire des bêtises, et c'est un sujet quand même, à mon sens, sensible dans le sens où les droits des LGBTQIA+, sont malheureusement toujours attaqués un peu partout dans notre société. Donc, c'est quelque chose avec lequel je veux faire attention.
Et toi, Mist, est-ce que c'est simple pour toi de parler d'expérience et de vécu LGBTQIA+ dans les jeux de rôle?
Non, pour les mêmes raisons que Farfa en partie, aussi parce que pour moi, se pose un problème de légitimité, je dirais, dans la mesure où je suis bi sans jamais avoir été en couple avec quelqu'un d'autre qu'avec des mecs. Et non binaire, mais pas très out. Et du coup, mon vécu hors du jeu de rôle est assez proche de quelqu'un de cis-hétéro. Donc la légitimité est une vraie question. Et puis aussi, j'ai peur de dire des bêtises parce que, comme Farfa l'a dit, on ne sait pas forcément tout. On ne veut pas rajouter des problèmes en plus. Et voilà.
Et pour toi, Momi, est-ce que c'est simple?
Non, en fait, on a tous des identités aussi de genres différentes et aussi un milieu social et culturel différent. Ce qui fait qu'on va parler peut-être des mêmes choses. Enfin, il y a des choses dans notre expérience qui se croisent, c'est sûr. Mais certaines choses qui vont pas résonner de la même façon. Et en fait, on n'a pas. Enfin, moi, j'avais pas envie de mal représenter certaines personnes. Je pense que tous ceux qui se reconnaissent dans cette identité queer devraient faire partie de cette conversation. Et en fait, on n'a pas envie d'occulter certaines choses et de dire des vérités générales. Donc, je pense que moi, on voulait surtout se concentrer sur nos vécus, sur nos points de vue, et de ce qu'on ressent, et qu'est-ce que ça nous a permis de développer personnellement. On n'est pas là pour faire de la théorie queer, mais pour aborder le vécu et aborder ça à travers le jeu de rôle.
Et toi, Christelle ?
Eh ben, moi, je pensais que c'était très simple pour moi. Moi, j'ai complètement transitionné avec et à travers les jeux de rôle. Et donc, c'est vraiment des espaces qui m'ont permis d'aller récupérer des morceaux de moi. Et je suis très heureuse de ça et peut-être même très enthousiaste, peut-être trop enthousiaste. Et que ça vient aussi potentiellement activer le fait que ces identités de genre et ces orientations sexuelles, c'est pas toujours joyeux pour tout le monde, ou c'est pas toujours aussi simple, ou parfois les euphories des uns ou des unes viennent activer les dysphories des autres, et que ça participe au fait que ce soit pas toujours simple d'en discuter entre nous quand bien même on est entre nous. Dans les choses qui ont été posées par Farfa et Mist, il y a la question des termes et la question des légitimités. Si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on fasse un petit tour rapide de deux termes, de distinguer par exemple ce qu'il va y avoir de différent entre une approche queer et une approche trans, de résumer très rapidement ce qui les réunit et ce qui les différencie. Et puis peut-être de mettre ça de côté et de simplement y revenir si jamais on en a besoin ou de ne pas du tout y revenir. Est-ce que ça va pour tout le monde ?
Oui.
Ouais.
Pour ça, on a décidé d'utiliser une source d'information inépuisable qui est Wikipédia. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un livre hors de prix pour savoir à partir de quoi on parle, ni de devoir traduire quelque chose. Mais si on s'en réfère à Wikipédia, la théorie queer, c'est une approche sociologique et philosophique qui postule que la sexualité, mais aussi le genre, masculin, féminin ou autre, d'un individu, ne sont pas déterminés exclusivement par son sexe, mais par son environnement socio-culturel, par son histoire de vie ou par des choix personnels. Ça vient principalement critiquer l'idée que le genre et l'orientation sexuelle sont déterminés strictement par la génétique et la biologie. Mais si la théorie queer elle a été inventée, c'est aussi pour s'opposer à des formes de féminisme qui réduisaient potentiellement les femmes à leurs organes génitaux. La théorie queer, toujours sur Wikipédia, différencie le type sexuel biologique mâle-femelle du genre masculin-féminin. Et elle critique une société qui tiendrait vers l'hétéronormativité, c'est-à-dire au mépris des individus qui n'adoptent pas l'hétérosexualité, voire qui poseraient l'hétérosexualité comme un résultat naturel, inné ou encore comme une obligation morale. Donc voilà un peu ce que ça pose comme idée et les travaux qui sont très à la base de ce champ disciplinaire ont été portés par des personnes comme Judith Butler, Gloria Anzaldúa ou Eve Kozowski-Sedgwick. À côté de ça, arrivé un petit peu plus tard, plutôt dans les années 90, il y a les travaux qui s'intéressent à la pensée trans et qui viennent créer une petite distinction. Les études trans ou les transgender studies, c'est un champ académique qui fournit une approche interdisciplinaire des études des genres. Donc ça reprend l'idée des gays, des lesbiennes et d'une sexologie qui vient arriver dans les années 90 comme une manière de pouvoir produire des savoirs sur les transidentités par les personnes trans elles-mêmes en réaction à l'omniprésence des discours construits par des personnes qui ne sont pas nécessairement trans. Et donc, les études trans, c'est une sorte de réponse aux études queer. Les études queer, elles examinent l'ensemble de tout ce qui n'est pas conforme dans les questions de genre et de sexualité. Et elles aiment privilégier des approches de la transgression, de la subversion et de la fluidité. Elles peuvent autant traiter des questions trans que de l'homosexualité, que de la bisexualité, que des sexualités non normatives. Mais ce qui est important dans les études queer, c'est l'idée de déconstruction des catégories binaires. Et à côté de ça, pour résumer, les études trans, elles se centrent spécifiquement sur les expériences, les histoires et les savoirs des personnes trans. Et elles examinent la transidentité comme un sujet principal, pas comme un exemple, pas comme une métaphore. Et s'intéressent aussi beaucoup à comment on développe des archives, comment on crée des liens avec le fait que la transidentité commence pas dans les années 90, mais a toute une histoire un peu perdue, autonome, qui se balade dans différents champs disciplinaires. Et elle s'intéresse à c'est quoi un parcours de transition, c'est quoi le vécu des corps, et aussi aux questions médicales et aux questions légales qui les accompagnent. Voilà. Donc pour réduire en deux phrases, les études queer, elles s'interrogent sur comment on peut faire péter le genre. Et les études trans, elles s'intéressent à, une fois qu'on a fait péter le genre, comment on vit ça dans nos corps, dans nos psychés, dans nos rapports au milieu médical ou au cadre légal. Voilà, j'irai pas plus loin, mais est-ce que vous, ça vous éclaire sur des choses? Ou est-ce que ça reste tout flou?
Non, si c'est un peu plus clair pour moi. Parce que j'avais pas du tout cette vision-là, effectivement, des deux termes. Et donc, c'est pas mal, parce que ça, comme ça, maintenant, je sais un peu plus comment on définit les deux termes dans la recherche.
Exactement, dans la recherche. Hein. Dans le milieu des têtes d'ampoule.
oui, c'est plus clair pour moi aussi. Je pense que c'est toujours bien d'avoir une définition qui est... des termes, même si on peut toujours, j'imagine, être d'accord, être pas d'accord, préciser, avoir des nuances, mais au moins basé sur une définition, c'est un bon début.
Ouais, c'est clair. Et puis du coup, ça amène forcément à la question, dans le jeu de rôle, comment on fait pour faire péter le genre, quoi? Comment on fait pour aller plus loin? Et je pense qu'on peut répondre au fait d'un jeu queer, qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre ça, en fait. Il va permettre d'expérimenter ou d'aller à des endroits qu'on ne connaît pas. En fait, moi, je sais pas, j'imaginais une espèce de membrane transparente et en fait, on peut repousser un peu, voir quelles sont les limites, voir où est-ce qu'on se sent bien, etc. Et en fait, si on a cette malléabilité, en fait, dans ce qu'on est, l'intériorité, puisque l'intériorité dans le jeu de rôle, c'est important. Il y a beaucoup de tout ce qui est de la fiction qui se déroule à l'intérieur, quoi, dans nos têtes. Et je pense que c'est ça aussi, ces mécanismes-là qui vont permettre de toucher à la queerness et à cette question d'identité.
J'aurais une double question qu'on peut faire en tour de table. Une question plutôt orientée joueuse dans un premier temps. Et une question qu'on va renverser du côté créatrice de jeu. Donc peut-être plutôt pour toi et moi, Momi, comment on crée des systèmes. Mais moi, j'aimerais bien vous demander si on réduisait cette idée d'approche queer à faire péter l'hétéronormativité, est-ce que vous auriez un souvenir, une expérience que vous pourriez nous raconter sur... une partie, ou peut-être la première partie, ou peut-être une partie parmi tant d'autres, où vous avez eu la sensation que le jeu, ou peut-être la table, les règles, la fiction, vous permettaient de faire péter ce cadre hétéronormatif pour jouer. Et peut-être de nous raconter ce que ça vous a fait aussi.
Pour moi, c'est des expériences qui ont toutes été, les expériences positives, j'entends, qui ont toutes été liées à ma reprise du jeu de rôle et le début du jeu de rôle en ligne. Et donc, pas mal à toi, Christelle, finalement, parce qu'il y a une des expériences qui est l'automne des géants. Je pense que c'est la première fois qu'on a joué ensemble. Je ne me rappelle pas très bien des mécaniques du jeu parce que ce n'est pas mon fort, mais je sais par contre que les personnages pré-tirés, ils ont leur pronom dedans. Et une grande majorité, si ce n'est pas la totalité des personnages, ont des pronoms non-binaires, dont certains sont plutôt exotiques, quoi, sont pas forcément les plus usités, même chez les personnes non-binaires. Et moi, c'était la première fois que je voyais ça dans un jeu de rôle. Une autre fois, c'était quand on a joué à Héros d'Argile. Christelle, je suis sûre que tu vois de quoi je parle.
Pas du tout.
Et c'est la première fois que j'ai eu une expérience de romance. C'est une des premières fois que j'ai eu une expérience de romance tout court en jeu de rôle. Et la première fois que j'ai eu une expérience de romance, en l'occurrence lesbienne, en jeu de rôle. Et enfin, il y a la première campagne de Néphilote que j'ai faite avec l'Hamson, qui vient de l'univers Néphilim, où ce sont des êtres non humains qui s'incarnent dans des corps humains et qui se réincarnent plusieurs fois, qui choisissent une personne, un corps, et qui se réincarnent dedans. Et pour moi, c'était la liberté. Ce jeu-là, c'était la liberté de ne pas avoir à choisir, à définir le genre de mon personnage, puisque c'est comme si c'était une âme qui peut s'incarner dans n'importe quel corps humain. Donc, pour moi, par essence, ça transcende le genre. C'est, si tu peux t'incarner dans le corps d'une femme, d'un homme indéfiniment et que tu restes la même personne, est-ce que ça ne veut pas dire que tu es par essence non-binaire? Pour moi, si, mais j'imagine que la réponse n'est pas la même pour tout le monde. Et après, j'ai eu des expériences plus négatives sur une feuille de perso, un MJ qui voulait absolument que je choisisse féminin ou masculin pour mon personnage, alors que moi, je lui avais demandé de façon assez innocente, mais on est obligé de choisir, on ne peut pas. On s'en fout, je ne peux pas juste dire qu'on ne sait pas. Il m'a dit non, tu choisis. Voilà. Donc j'étais contente de pouvoir découvrir des jeux où c'était pas obligatoire, quoi. Voilà pour mes expériences.
Et toi, Mommy ?
Moi, je pense à plusieurs choses. Je pense à notre partie de Dream Ask You, qui est là vraiment un jeu qui te pousse à créer des personnages hyper ambigus sur leur genre. Enfin, le genre fait partie de la fiche de personnage. Et c'est des présélections, quoi. Donc, pour chaque archétype, il y a vraiment des trucs, des fois un peu barrés. Et c'est vraiment cool. Et du coup, j'avais joué un personnage assez androgyne ou même non-binaire, on savait pas trop. Et c'était pas intéressant. Enfin, c'était pas important, de toute façon, dans l'histoire. Aussi, un peu lié, c'est que dans notre partie de Monster Hearts, où j'étais maître de jeu, j'ai incarné un démon qu'on avait appelé Jen, et qui était cette espèce de grande personne aux cheveux blancs, hyper cool, hyper badass, et qui changeait un peu de genre en fonction de la situation, parce que Yel incarnait un démon de l'amour, quoi, du désir. Et du coup, je m'étais amusé avec ça, c'était assez marrant. Et sinon, très simplement, je pense qu'un des trucs qui m'a marqué, c'est une campagne de L5R, où on jouait dans un cadre qui émulait un peu Demon Slayer, le manga et animé. Donc on jouait des jeunes samouraïs, en fait, qui étaient envoyés en mission un peu périlleuse. Et en fait, il y a eu un rapprochement de mon personnage avec le personnage que jouait un autre de la table, et qui, sans qu'on se dise rien, quoi, a vraiment accepté cet échange de romance, mais tout était très suggéré, ça faisait un peu Orgueil et Préjugés, quoi. Parce que c'est, avec toutes ces petits, cette politesse japonaise de l'époque, enfin, bref. Et ça a vraiment guéri un truc en moi, parce que j'ai pu, en fait, vivre des romances adolescentes que j'avais pas forcément pu vivre. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'était vraiment chouette comme expérience, quoi.
Un peu pareil pour moi. Juste pour préciser pour les gens qui nous écoutent, Autumn of Giants, c'est un jeu qui a été créé par une personne trans qui s'appelle Mélodie Saturne, dont je ne suis pas certaine du genre, pour le coup. Au même titre que Dream Ask You et Monster Heart, ont été créés par Avery Adler, qui est aussi une femme trans. Et en fait, les espaces de jeux de rôle ont été les premiers espaces où je pouvais être dans un genre féminin sans que ce soit compliqué. Où je pouvais tout vivre de A à Z depuis une expérience féminine, même si ma transition avait déjà commencé à ce moment-là et qu'elle était déjà existante au travail, dans ma vie d'artiste ou dans ma vie sociale. C'est pas pour ça qu'elle était effective, et je trouve ça hyper intéressant que vous ayez mentionné l'importance de la romance. parce que ça a permis, bah, très exactement ce que tu dis, Momi, de pouvoir, de, ça permet, et ça me permet encore de pouvoir vivre beaucoup de romances adolescentes, de revivre une adolescence que j'ai pas pu vivre à travers des parties de jeux de rôle. Et à l'opposé de ça, j'ai aussi eu une expérience sur une partie de Libreté. Pour le coup, un joueur a embrassé mon personnage sans trop m'avoir demandé. Et ça m'a complètement intrigué. Et je pense que pour le coup, même si c'était dans le virtuel de la partie, c'était aussi la première fois que, en tant que femme, on m'embrassait sans que je sois consentante. Et que c'est aussi une expérience où, même si elle n'a pas forcément été très agréable, je crois que je suis assez reconnaissante d'avoir pu vivre ça dans un espace fictionnel et pas dans une boîte de nuit. Voilà pour moi.
À Farfa.
Alors moi, l'expérience la plus marquante que j'ai eue, ça a été avec mon premier personnage à genre, hein, curieusement. Je venais de réaliser que je l'étais, et ça m'a permis d'un petit peu expérimenter, essayer de comprendre ce que ça voulait dire pour moi. Et en même temps, c'était extrêmement comment dire, libérateur. J'ai créé un perso, donc déjà il s'appelle, enfin Yael s'appelle Ael. Ael pouvant être, alors c'est un vrai prénom, mixte. Et Ael, c'est aussi un pronom neutre. C'est pas le plus connu, mais il existe. Et c'était un personnage au physique extrêmement androgyne, au point que, en fait, les gens ne pouvaient pas genrer le personnage. C'était impossible d'être sûr, parce qu'en fait, réellement, il n'y avait pas de genre. Moi, je n'avais pas défini de genre. En tout cas, pas dans la binarité de genre. Et ça m'a permis aussi de voir un peu les réactions autour. Les autres joueurs n'en ont pas vraiment parlé. J'avais demandé au MJ si ça lui allait comme idée. Il était très, très enthousiaste. Les autres joueurs m'ont pas vraiment posé de questions sur le pourquoi de ce personnage ou quoi. Par contre, leur perso, c'était des mecs beaufs, qu'ils ont bien joué beaufs, on va dire. Même si ça restait rigolo, ils ont pas franchi de limite ou quoi, ça allait quoi. J'ai aussi eu une expérience de romance lesbienne. Alors, la romance en soi, c'était avec un PNJ, ça se passait bien. La mauvaise expérience est venue d'une partie de la table qui, manifestement, sans forcément s'en rendre compte, a pris cette relation comme un ressort comique. Donc moi, qui attendais de la romance un peu du... Bon, il y avait des moments de drama, bien sûr, mais aussi du doux, des moments plus où les persos peuvent souffler, etc. C'était une relation très respectueuse, etc. Enfin, en gros, il s'est pas passé grand-chose, hein. Les persos se tournaient autour, ça n'allait pas plus loin. Mais ça a suffi pour que, notamment, deux personnes à la table, je sais pas, soit ils trouvaient ça très drôle, soit je les avais jamais vus comme ça avant.
Ouais, et jaloux.
Ça a été, pour le coup, non, ça a été très très désagréable, parce que c'est comme s'ils perdaient certaines barrières. Comme c'était deux nanas ensemble, alors je précise qu'il y avait un mec, mais il y avait aussi une nana dans les deux qui réagissaient comme ça. Et ça me gâchait tout, quoi, en fait, parce que déjà, ça sexualisait beaucoup la relation, et ça en faisait quelque chose de... un ressort comique, et puis... voilà, alors je ne sais pas, n'ayant jamais été en couple lesbien IRL... Je sais pas si ça m'a donné un aperçu de ce que peuvent vivre des couples lesbiens, mais ouais, c'était pas agréable, mais c'était en même temps, ça m'a appris des trucs, quoi, sur bah oui, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas se montrer en public, pourquoi, ouais, si dès que tu te montres en public, il y a des mecs beaufs qui commencent à te siffler dans la rue, tu te sens pas en sécurité, quoi.
Est-ce que tu serais d'accord de dire que t'as peut-être eu une expérience d'homophobie ?
Je pense, ouais. Je pense qu'ils en ont pas du tout conscience. Je l'ai dit plusieurs fois que moi, ça me gênait qu'ils rigolent comme ça, qu'ils en fassent un ressort comique. J'avais l'impression qu'ils se moquaient de mon personnage parce qu'elle était en couple avec un autre personnage féminin. eux, ils disent là, non, 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 mais c'est pas ça du tout. Et en fait, ils ont continué, les deux. Donc, oui, je pense qu'on peut dire ça, ouais.
Un peu comme ce que tu disais, Cristal, que en jeu, tu as vécu une expérience négative de qu'est-ce que ça peut être d'être une femme dans un espace public. Et que ben, je pense que ouais, ça ressemble à avoir vécu en jeu et pas en vrai une expérience d'homophobie, quoi. Enfin, je pense. Hein.
Et puis là, la dernière expérience, c'est j'ai un personnage de Changelin sur du D&D. Pour moi, c'est un Changelin. Pour lui, le genre, vu que Yel peut changer son corps à volonté, le genre n'a pas vraiment d'importance à ses yeux, n'a même pas de sens, donc je me retrouve bien dedans. Mon MJ, par contre, lui, même si c'est un Changelin, c'est un perso féminin, toi. Alors que moi, je n'avais rien dit du tout. Hein, donc, bon, je n'avais pas envie de me battre pour ça. Je me suis dit, c'est pas grave. Eux, ils ont l'impression que c'est un personnage féminin parce que sa première persona était une humaine, personnage féminin, effectivement. Bon, maintenant, il a changé d'apparence et il a l'apparence d'un jeune adolescent. Et par contre, je vois qu'il y a beaucoup de mégenrage maintenant, parce qu'ils sont restés sur la première identité. Donc, je sais pas si c'est dans le même style, mais il l'appelle par son prénom féminin de sa première persona. Et quand les autres persos parlent d'elle, ou quand les autres joueurs parlent d'elle, ou ils, plutôt, bah c'est toujours au féminin.
Alors, je pense que ça. Parfois, ça peut venir, c'est pas moins grave ou quoi, hein, mais ça peut venir non. De la façon dont il genre le joueur ou la joueuse. Ouais. Et je pense qu'il te genre au féminin.
Mmh.
Ouais. À tort, mais néanmoins, il te genre au féminin. Ouais. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à genrer correctement un personnage qui est différent du genre du joueur, du genre supposé du joueur, tu vois.
Ça, je l'ai eu sur une autre table où je jouais un homme, un personnage homme. Et il y a un des autres joueurs, et vraiment, je pense qu'il le fait pas par malice ou quoi, c'est juste vraiment, il me l'a dit, mais non, mais en fait, je te vois toi, j'arrive pas à... Alors qu'il y avait la figurine sur la table, hein, donc... Mais non, il m'associait trop à mon personnage, en fait, quelque part, dans sa vision des choses.
Mmh.
Je sais pas.
Ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous partages, c'est... Et c'est une chose qu'on avait déjà évoquée dans notre première discussion. C'est l'importance de la table où t'auras beau avoir un jeu qui propose des représentations. Si le MJ ou la MJ ou la AMJ, la meneuse ne te soutient pas et si les autres joueuses ne te soutiennent pas, bah en fait, tu n'es pas représenté.
Mmh. Oui.
Parce que l'histoire ne t'inclut pas à toi comme tu as décidé d'être inclus.
Ouais.
Alors, à savoir qu'à l'époque, j'avais pas dit au niveau de cette table-là que j'étais à genre. Maintenant, ils le savent. Ça se passe bien. J'ai pas eu de problème, je veux dire, à ce niveau-là. Par contre, je pense que pour beaucoup, ils continuent à me voir en tant que femme, quoi. Ça.
Ces personnes ne savent pas ce qu'elles ratent.
Et oui.
Je les plains. Mommy.
Ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu dis, c'est que le jeu de rôle permet une chose, c'est que, tu vois, même si eux ne considèrent pas que ton personnage est à genre, toi, oui. Mmh. Et en fait, dans ta fiction, tu peux avoir cette représentation-là que eux n'ont pas forcément. Mmh. Donc, tu vois, même s'il y a une disparité autour de la table, en fait, toi, tu peux te raconter des histoires qui te touchent ou des histoires queer, alors que c'est pas forcément le cas des autres joueuses.
Mm.
Est-ce que ça arrive fréquemment, vous pensez ?
Oui, je pense.
Je pense que ça arrive fréquemment, mais surtout, c'est, je trouve que cette idée de se dire que ton vécu ou ton histoire ne fait pas partie de la grande histoire de la table parce qu'elle n'est pas vue ou pas perçue, vient rejouer des formes de discrimination qu'on vit déjà, en fait. Et donc, tout le combat ou toute la lutte ou tout l'enjeu, avec des règles, avec des meneureuses qui prennent ça en considération, avec une table qui prenne des considérations. C'est tout ce travail collectif d'intégrer les vécus de chacun chacune pour qu'on raconte la même histoire et que cette histoire, elle inclut tous les vécus autour de la table. Sinon, ça ne fait que reproduire une violence déjà subie.
Je tiens à dire, alors je ne sais pas si ça tient à la table ou aux médias, mais c'est un problème que je rencontre absolument pas en RP écrit. En RP écrit, j'ai un personnage masculin, il est en couple hétéro, enfin hétéro, c'est un demi-orc avec une Félix, hein, donc voilà, c'est un peu compliqué leur histoire. Et voilà, mes deux autres personnages sont féminins, oui parce que j'ai trois personnages sur ce serveur-là, et il n'y a pas de problème. Et il y a un autre serveur où je fais du RP écrit, et mon personnage n'a pas de genre. Bon, alors par contre, pour écrire, en essayant de ne pas genrer son personnage, du tout, en utilisant même pas le point médian ou quoi, tu te casses la tête hein, pour les tournures de phrases. Hein. C'est là qu'on voit que le français, c'est vraiment pas adapté. Hein.
Le français, c'est pas adapté. Quick anecdote à ce sujet. Ça fait des années que j'essaye plus ou moins d'écrire un roman où un personnage n'est pas genré. J'ai pas forcément envie de mettre yel ou de mettre des points médians, donc juste de ne pas le genrer, et le français est complètement pas adapté à ça, et encore moins à l'écrit, parce que par exemple les participes passés en « et » qui à l'oral sont muets en ce qui concerne le genre ne le sont plus à l'écrit, donc c'est encore plus compliqué à l'écrit qu'à l'oral, je trouve. Donc
Tout ce qui est les accords qu'on n'entend pas à l'oral, ben à l'écrit, ça se voit. Donc. Et t'en as partout, donc c'est très très compliqué d'éviter, quoi.
Ça l'est.
Bien, pour toutes les personnes qui chercheraient de l'inspiration pour savoir comment écrire sans genrer des personnages, je vous invite à l'occasion à consulter un livre qui s'appelle Sphinx, écrit par une auteuriste qui s'appelle Anne Garetta, qui est sorti dans les années 80 ou 90, j'ai plus la date en tête, et qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque justement pour sa capacité à déplier un personnage qui n'est pas genré, qui s'appelle A Petite Étoile, je crois.
Merci pour la découverte.
Donc toi, Momi, t'as créé un jeu qui est très chouette, basé sur des cartes de tarot, qui s'appelle Magie de Minuit. Et est-ce que tu considères que c'est un jeu qui est queer, ou trans, ou simplement LGBTQIA+, et est-ce que tu serais d'accord de nous expliquer, si c'est le cas, qu'est-ce que les règles mettent en place pour que ces possibilités ou ces expériences puissent se produire?
Ouais, carrément. Donc, effectivement, maintenant, a posteriori, pas pendant l'écriture, j'y pensais pas, mais je pense que oui, c'est un jeu queer. Et l'une des choses qui n'appartient pas que ce jeu, mais qui le permet, c'est effectivement le fait qu'il n'y ait pas de meneur. Et donc, la répartition de la parole fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tout le monde autour de la table participe à la narration de manière égale. En tout cas, il faut l'essayer. Ce qui permet, en fait, de faire vivre ces vécus-là. Et le jeu parle de sorcières. Et pour moi, la figure de sorcière, et je pense pour d'autres, résonne avec cet aspect queer, parce que c'est des figures qui sont en marge, marginales, qu'on va incarner à travers des lames de tarot. Ce sont des espèces d'abstractions, pareil, de concepts. Et en fait, au lieu d'incarner un personnage, on va peut-être plutôt incarner un concept. Donc en fait, le genre est même pas vraiment une question à ce moment-là, ou en tout cas, tout le monde est genré féminin de base. En fait, c'est ce qu'on en fait avec ça qui va être intéressant dans son identité, dans la construction de son personnage. Et la congrégation de sorcières que toutes les joueuses incarnent, quels sont les mécanismes qui vont être mis en place dans leurs relations et dans comment elles vont interagir avec le monde de par leur identité de sorcière. Et je pense que là-dessus, ça soulève beaucoup de questions sur l'identité, sur son rapport au monde et des conflits intérieurs qui peuvent survenir par rapport à sa nature, en fait, et à ce qu'on est.
J'avais une petite ref à partager, que dans la culture néo-païenne américaine, le fait de se définir comme sorcière par des militantes plutôt écologiques et écoféministes était aussi apparu dans le fait de vouloir soutenir la cause des natifs américains. Et que les natifs américains leur avaient dit, mais en fait, vous, vous avez rien à voir avec notre combat, pourquoi vous voulez nous aider ou joindre à nous? Et que se revendiquer sorcière, c'était revendiquer le fait qu'on descendait, qu'on héritait de la dernière extermination que les Blancs avaient commise sur les Blancs eux-mêmes, à savoir la chasse aux sorcières. Voilà, j'avais envie de placer ça. Je pense qu'on retrouve ça chez Starhawk, dans des livres comme Rêver l'obscur, si jamais ça intéresse des gens. Et que voilà, l'archétype de la sorcière, il a toute cette dimension littéraire, comme tu l'as signifié. Mais il a aussi un cadre politique qui est de se dire, on se revendique aussi de toutes ces personnes qui ont été chassées, oppressées et brûlées parce que c'était des femmes badass, ou parce que c'était des hommes homosexuels, ou parce que c'était des femmes trans, et que dans tous les cas, en fait, toutes ces personnes-là, on les mettait au bûcher parce qu'à un endroit, elles ne correspondaient pas à une approche hétéronormative.
Ça, en plus, c'est vraiment une vision liée aux religions chrétiennes, hein, enfin au moins catholiques, parce que quand tu regardes dans les autres cultures, et notamment, alors je me rappelle plus du tout le nom, mais j'ai vu passer il y a quelques années un financement participatif pour un jeu de rôle où tu joues des natifs américains, fait par des natifs américains. Donc c'était quand même assez, enfin c'était cool quoi. Et je sais que chez eux, bah, il n'y a pas que deux genres en fait. Et quelqu'un qui avait été, qui était vu comme garçon à la naissance, qui décidait de porter des vêtements plus féminins, de prendre des rôles habituellement plus dévolus aux femmes et tout, ça leur posait pas particulièrement de problème, si j'ai bien compris. Donc je suis pas du tout spécialiste de la question, donc j'espère que je dis pas de bêtises. Mais voilà, il y avait. La figure de l'homme médecine, femme médecine, enfin ça c'est peut-être des appellations de blanc, de colon, hein, mais et pareil, je crois, en Inde, il y a les personnes du. Il y avait un troisième genre, et c'était des personnes qui avaient des responsabilités, notamment au niveau de la religion, des rituels, qui avaient une certaine aura mystique. C'était pas anodin quand même, mais c'était reconnu, c'était accepté, c'était même célébré quoi. J'ai l'impression.
Il y a beaucoup de
Je sais pas si
cultures
vous
où a
avez
priori
passé.
c'est.
Ouais.
Enfin, j'ai vu passer ça aussi, je sais pas à quel point c'est vrai et tout, mais c'est logique en un sens de penser qu'il y a pas mal de cultures où il y avait soit un troisième genre, soit tu pouvais être dans un rôle social différent de ton genre de naissance ou de ton genre tout court. Enfin voilà quoi. A priori, c'est quand même des choses qui ont été effacées par la colonisation dans beaucoup d'endroits.
Et du coup, je ne sais pas si dans les auditorices, il y a des gens qui connaissent des jeux qui sont ancrés dans d'autres cultures que la culture catholique européenne, je vais dire, enfin Europe de l'Ouest, hein, s'entend. Ben, ça m'intéresserait moi de savoir si dans ces jeux-là, du coup, la représentation des personnes queer est beaucoup plus normalisé que dans les jeux que nous on a plus l'habitude de voir hors sphère indé, je vais dire.
Moi, ça me fait penser à un jeu. Alors, je sais plus si j'y ai joué ou si j'ai simplement plongé dans les règles pendant une nuit, mais sans avoir jamais joué avec d'autres personnes que simplement lire les règles. Un jeu qui s'appelle Balik Bayan par une auteurice qui s'appelle Rae Nejati. Alors, pour celles et ceux qui auraient peut-être joué à Apocalypse Keys, ou à une version de Sakura Card Captor qui a été traduite par Momi, consultable sur la plateforme Force de Drama, mais en tout cas, Balik Bayan, c'est un jeu écrit pour moi par une personne non binaire d'origine philippine et qui ancre son lore justement dans le folklore philippin et qui, à mon avis, doit offrir des formes qui vont par-delà la binarité. Ça nous amène à peut-être poursuivre la question de c'est quoi des expériences qui sont par-delà le genre dans les jeux de rôle ? Il y a des choses qui ont déjà été mentionnées par Myst et par Farfa, mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Si on imaginait une table parfaite avec un jeu dont les règles et le lore est parfait, qu'est-ce que ça vous permettrait d'imaginer comme type de personnage, de jeu et de relation ?
Alors, moi, ça me fait penser, parce que je suis pas mal sur Role and Play en ce moment, hein, pour ceux qui connaissent. Sinon, je vous invite à vous renseigner. Et en fait, dans le lore, je sais pas si c'est le cas aussi dans le lore de D&D, parce que c'est au niveau mécanique, c'est basé sur la cinquième de D&D. Mais dans le lore, il y a notamment plusieurs peuples qui ont des reproductions un peu différentes, on va dire. Il y a les gnomes qui, en fait, n'ont pas d'organes reproducteurs et se reproduisent, on sait pas trop comment. Il y a un bébé qui se développe et un jour, le parent s'endort et le lendemain matin, il se réveille, il y a le bébé à côté de lui. Voilà, bon, c'est de la magie, c'est un univers médiéval fantastique, donc fantasy, donc ça marche. Il y a aussi les hommes serpents qui sont aussi asexués. Il y a juste des reines qui peuvent pondre des œufs, c'est des ovipares. Et il n'y a que elles qui peuvent créer de nouveaux membres de la communauté, on va dire, a priori par parthénogenèse, quoi. Donc la capacité qu'ont notamment les phasmes dans notre vie réelle de se reproduire sans avoir besoin de l'intervention d'un mâle.
Donc pour toi, ce serait s'affranchir des limites physique et biologique de la réalité pour expérimenter d'autres choses.
Oui, parce que tu vois, si je réfléchis à tout ce qu'est les félis ou tabaxi, les elfes, les nains, tout ça, c'est des origines différentes des humains, certes, mais on reste toujours dans une binarité de genre dans ce qui est présenté comme le plus fréquent. C'est pas impossible de faire un nain qui soit agenre ou qui soit trans ou quoi, mais le jeu t'y encourage pas particulièrement, en fait. Si toi t'y penses pas, que t'as pas envie de tester, le jeu va pas, lui, t'amener à réfléchir à cette possibilité-là. Par contre, sur les gnomes et sur les hommes-serpents, c'est bien expliqué comment ils se reproduisent, parce que justement, ils ont pas une reproduction sexuée, voilà. Donc, dans un autre contexte, on pourrait imaginer jouer en science-fiction une espèce extraterrestre où c'est sexué, mais il faut trois sets de bagages génétiques pour créer un petit. Ou au contraire, ils se reproduisent par clonage et voilà, il n'y a plus vraiment de genre, quoi. Et ça pose aussi la question de la représentation, parce que même si dans le jeu, on sait que, par exemple, les drakeides, bon, c'est des ovipares, ça tient du lézard, du dragon ou quoi, mais dans les représentations des drakeides femelles, je veux dire, elles sont très humanisées. Avec de la poitrine, alors oui. Que
ça n'a aucun sens.
Ne va jamais allaiter, en fait. Ça n'a aucun sens biologiquement parlant. Alors,
ah oui,
je suis d'accord qu'on est dans un univers imaginaire, on peut imaginer tout ce qu'on veut, hein, donc en soi, pourquoi pas. Mais ça ne fait pas sens.
Oui, et puis là.
Ou alors on fait des ornithorynques, moi je veux bien.
Il y a ça dans les cartoons pour enfants, des fois, où tu as un oiseau et pour montrer que c'est une femelle, ils font une sorte de poitrine et des longs cils.
Une taille de guêpe avec des hanches.
Pour moi, ça démontre une absence de capacité de l'illustrateur à se sortir de sa façon de penser, quoi. Genre, c'est une femelle, il faut la sexualiser avec une poitrine, sans tenir compte de à quoi ça sert à la base d'une poitrine, quoi. Donc, pour moi, ça reste un problème. Mais bon.
Ouais, moi j'aurais posé une question, je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, peut-être que Christelle, tu pourras répondre. Mais du coup, de ce que je saisis, vous êtes partisane de...
Partisans.
voilà.
Ouais.
Des univers où le genre n'est presque pas une question, ou en tout cas s'échappe en fait des limites du réel. Mais est-ce que vous préférez qu'un univers fictionnel, le genre ne soit pas une question ? Ou au contraire, que la question du genre soit abordée, mais qu'il permette d'expérimenter ce qu'on veut. par exemple, un univers fictif où l'homophobie n'existe pas, mm-hmm. ou alors que le genre n'est pas défini, n'existe pas. Au contraire, qu'on ait des, ben, comme notre monde, quoi, des canons de genre, mais que il existe en fait. Je sais pas comment poser la question.
Ouais, mais je crois que je vois ce que tu veux dire.
Je trouve que ça vient, tu viens pile mettre le mot sur quelque chose qui est entre une notion et un concept qui s'appelle le trouble.
Ouais.
Et qui est justement le... Qu'est-ce qui va permettre une expérience de trouble ? Est-ce que c'est de mettre clairement des archétypes troubles ? Ou est-ce que c'est le fait de mettre moins de pression sur tout le reste ? Voilà.
Alors moi, pour reprendre la première question, pour moi, et c'est étrange parce que j'ai une formation, entre autres, de biologiste, mais pour moi, je décorrélerais complètement la reproduction ou le mode de reproduction du genre, puisque le genre et le sexe sont deux choses différentes. Je trouve ça intéressant de dire que tu peux pousser dans un jeu tradit les questions de genre en mettant des espèces qui ne se reproduisent pas de façon sexuée. Je trouve ça cool parce que ça force la question. Mais par contre, pour moi, idéalement, un jeu parfait à ce sujet, ça pourrait être que le genre n'est pas une question. Alors, soit en proposant des personnages qui n'ont aucun genre par essence, mais aussi en disant que... En considérant les humains tels qu'ils existent aujourd'hui biologiquement, en considérant de décorréler complètement la question de la reproduction de tout le reste, c'est-à-dire des relations, pour moi, ça va presque jusqu'à dire que le couple n'est plus une question et donc l'amour entre l'amour amoureux, l'amour romantique et l'amour, l'amitié, l'amour qu'on porte à quelqu'un d'autre, on ne ferait plus une aussi grosse différence si on se fiche du genre. Et après, la question de la sexualité, c'est une question qui, pour moi, est complètement différente. Donc, ça pourrait être un premier jeu. Et pour répondre à ta question, Momi, je pense que les deux sont intéressants. Soit, c'est pas une question, on fait ce qu'on veut, on peut même avoir pas du tout de genre dans les personnages. Mais poser la question en gardant les termes de genre, c'est aussi intéressant. Mais pour moi, c'est juste deux jeux différents. Je ne sais pas si c'est plus clair que la question posée du coup, mais...
Oui, je pense que ma pensée, c'est que si dans le cadre, pour moi, le genre disparaît, qu'il n'y a pas de notion d'homme et de femme, par exemple, ben moi, je ne peux pas expérimenter, par exemple, l'homosexualité.
Oui.
De la même manière que si ça existe. Et c'est là où je trouve qu'on va, tirer des cordes différentes,
ouais.
Ou arriver à des endroits différents, tout en provoquant toujours ce trouble. Donc, Crystal a parlé.
Ouais, mais moi, je trouve que les deux... je trouve que c'est juste des jeux différents. Mais que j'ai envie de jouer aux deux jeux, quoi. J'ai envie de jouer, d'explorer des romances non-hétéros dans un monde où c'est pas dangereux de le faire. Et j'ai aussi envie d'explorer un monde où le genre n'a aucune importance. Soit n'a aucune importance, mais qu'il existe, soit n'existe tout simplement pas. Et le genre, pas le sexe. Pas nécessairement le sexe. C'est encore une troisième question pour moi.
Ouais.
Eh ben, en tout cas, pour revenir sur Balik Bayan, Raya Najdani, elle met un archétype de personnage qui est fluide et qui peut s'incarner dans ce qui reprend un exemple que tu avais donné, Farfa, de Le Changelin. Et donc, le nom de cet archétype, le Tikbalang, il a une capacité de transformation en différentes formes animales, anthropomorphiques, mais c'est aussi un leader spirituel de la communauté. Ce qui fait que c'est pas un fantôme, c'est pas quelqu'un qui n'est pas vu, c'est quelqu'un qui est bien vu par la communauté dans le jeu, quoi. Il est visible, enfin, l'entité est visible.
Pour moi, c'est presque le perso parfait, le perso qui peut s'incarner. c'est le fantasme absolu, c'est de changer de forme à volonté, quoi.
Pour revenir sur la question de Momi, moi, je sais pas choisir, en fait. À chaque fois qu'il y a un choix à faire, c'est la cata. Donc, je vais pas choisir. Je vais dire, ça va dépendre de mon état d'esprit et de ce que j'attends du jeu à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il y a un moment où je suis fatiguée, où j'ai envie d'être dans mon perso comme je mettrais mes chaussons, je vais avoir envie d'un jeu où le genre, que tout ce qui existe, toute la palette de genre et de relationnel puisse exister, sans que ça pose de questions et de soucis. Si c'est un moment où là j'ai envie d'un jeu qui va plus me pousser à réfléchir à mes biais, à des choses que j'ai pu intérioriser, ou si je veux, voilà, alors à chaque fois que j'étais, alors bon, à elle c'était voulu, mais la romance lesbienne c'était pas du tout prévu à la base, ça arrivait comme ça, et je me suis dit pourquoi pas, mais faut que moi je sois en capacité d'avoir cette expérience, d'avoir ce questionnement, etc. Et je sais qu'il y a des fois où, comme c'est un jeu, on a cette grande chance de pouvoir se dire, bah là, j'ai pas envie de me frotter à... Mais ouais, ça va dépendre vraiment des moments. Je sais pas si je fais trop sens. Même moi, je me suis paumée là.
Ouais. Bah non, mais t'es dans le trouble. Tout va bien.
D'accord, bon, bah, c'est normal que je sois mieux alors.
Et peut-être que Moni a envie de répondre à sa propre question.
Non, moi je pense, je veux juste ajouter que je trouve une certaine jouissance à justement jouer des romances heureuses et cool dans un monde qui ne l'est pas, quoi. En fait, rejouer cette marginalité dans le genre et dans les relations, mais en faisant quelque chose de beau, d'intime et d'empouvoirant, c'est ça que j'aime et ce que je recherche.
Moi, je trouve que chacun, chacune, chacune, à votre manière, vous mettez le doigt sur le fait que ce qui est cool avec les jeux de rôle, c'est qu'on peut, c'est qu'on peut vivre des moments d'euphorie. Et ces moments d'euphorie peuvent aussi passer par soit le fait d'incarner quelque chose qui nous correspond de manière définie ou trouble. Et aussi le fait de vivre des romances. Et vivre des romances, c'est aussi le fait d'être aimé pour ce qu'on affirme, ou aussi être aimé pour ce qu'on ne parvient pas à affirmer, ou ce qui n'est pas affirmable, notamment des fluidités de genre, de la non-binarité, le fait d'être à genre. Et que les jeux de rôle, ben, ils permettent ça quand la table le permet et que les règles créent des espaces ou enlèvent des clôtures pour que ça puisse se manifester. Je trouve que c'est un truc qui est quand même revenu beaucoup dans ce qu'on a dit, la question de l'importance de la romance dans des genres qui nous correspondent ou des absences de genre.
Tu parlais des moments euphorisants, et c'est vrai que pour moi c'était très euphorisant, je pense, notamment quand j'ai joué à elle, d'avoir cette première expérience où quelque part je reprenais le contrôle et à travers le personnage pouvais me découvrir moi en fait, sachant que j'étais adulte et j'ai mis plusieurs décennies à comprendre que j'avais pas de mots en fait. Quand j'ai grandi, personne m'a dit que ça existait, et à travers le personnage pouvait être vraiment moi, parce que à ce moment-là, moi je me découvrais, j'avais pas dit à qui que ce soit, ou très très peu de personnes savaient, parce que même rien qu'expliquer ce que ça signifiait, c'était encore très compliqué pour moi. Bon, c'est toujours un peu compliqué. On avait parlé d'empowerment tout à l'heure, c'était vraiment ça, quoi. Et sur le moment, j'aurais pas su mettre ce mot d'euphorie. Mais ça tenait de ça. Ça m'a fait beaucoup de bien de jouer ce personnage. Et de jouer ce personnage qui a ce physique assez particulier, qui fait que beaucoup de monde se demande, parce qu'ils veulent le ranger dans une ou l'autre case, et le personnage refuse d'être rangé dans une case. Donc il ne répond jamais à la question.
J'ai une petite question. est-ce que... Tu parlais de la difficulté de faire un choix. Je me demande à quel point c'est lié. Je partage ce problème très fort. Alors, je me demande si c'est pas lié un peu la non-binarité et la difficulté de faire un choix, ou si c'est juste une blague. Mais en tout cas, est-ce que l'euphorie que tu as ressentie n'est pas aussi due à cette charge mentale en moins de devoir choisir un genre pour ton personnage ? Parce que moi, très clairement, c'est le cas. Genre, j'ai pas besoin de décider. On verra.
Je pense pas que c'était ça dans mon cas, parce que j'avais sciemment fait le choix de ne pas choisir. Je sais pas si ça fait
trop
sens.
Ok. Je vois ce que tu veux dire.
De sortir de cette binarité consciemment, volontairement et de se tenir à cette non-binarité, de la revendiquer en fait, de dire non, vos cases n'ont pas de, ne me correspondent pas, je n'irai pas dedans.
Oui, de faire le choix régulier de la non-binarité.
Voilà, quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à faire IRL.
Bien sûr.
Voilà.
Ben, par-delà ces histoires d'études queer et d'études trans, il y a un champ académique qui est en train d'émerger, qui serait les études non-binaires. Si les études trans, elles amènent la priorité sur le fait que, par-delà le fait de faire péter l'hétéronormativité, il faut s'intéresser au vécu matériel, émotionnel, médical ou légal des personnes trans qui font des transitions plutôt binaires. Il y a le même travail à fournir du côté des expériences non binaires et que c'est pas encore si accessible que ça. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase de collecte. Il n'y a pas d'article Wikipédia sur les non-binary studies, par exemple. Mais il y a besoin de ça. Il y a peut-être besoin encore plus de parties de jeux de rôle avec des expériences par-delà le genre et de discussions comme on a pour accumuler des données et avoir des archives de la non-binarité. Voilà.
En tant que personne à genre qui a découvert le mot passé 30 ans, qui s'est dit « Ah, mais c'est ça, en fait !» Du coup, c'est un certain soulagement. Je me dis l'importance aussi de peut-être mettre cette possibilité dans les jeux pour enfants. Alors, je sais que ça serait très polémique de proposer ça, de parler de ça sur un média, parce qu'il y a plein de gens que ça choquerait. J'imagine déjà que rien que de parler du genre à des enfants, il y en a, bref. Parce que quand t'as pas les mots, en fait, vraiment, je me suis jamais sentie vraiment fille. Je me suis définie comme fille parce que tout le monde m'a dit t'es une fille, en fait. Mais moi, j'avais l'impression de pas être comme il fallait en tant que fille. Et après, j'ai compris. Mais jusque-là, j'avais pas les mots, en fait. Donc, je pense que c'est important de dire aux enfants les mots, de leur donner un vocabulaire qu'ils puissent mieux se comprendre.
Ben, moi, je pense au travail que fait Sylphel, qui amène des questions de jeu de rôle dans des écoles. Et où finalement le jeu de rôle devient un média qui peut complètement créer des espaces de discussion autour de ça, sans que ça devienne un moment théorique, mais justement un moment en pratique en disant ah bah là on va jouer des personnages qui n'ont pas de genre ou
oui ou même tu peux dire si t'as envie de jouer une guerrière tu peux. N'importe qui peut jouer une guerrière, n'importe qui peut jouer un personnage garçon. Ça peut permettre de... Je ne sais pas si désacraliser le genre, c'est le bon terme, mais...
Le défiger, peut-être, en tout cas. Parce que les enfants, ils sont naturellement plus souples pour plein de choses, parce qu'ils n'ont pas acquis des automatismes. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils...
Ils n'ont pas intériorisé...
Ouais, et même si, moi, ma fille, elle m'avait raconté une histoire très compliquée, comme tous les enfants, à base de sa copine qu'on venait de croiser chez le coiffeur et tout, et une histoire de je sais pas quoi, je m'en rappelle plus, et elle m'a dit, ouais, puis là, il y avait sa maman, mais pas celle qu'on a croisée chez le coiffeur, son autre maman, parce qu'en fait, ma copine, elle a deux mamans. Et c'était vraiment un détail insignifiant de son histoire, c'était juste pour préciser une chose, elle n'en avait rien à faire. Et je pense que les enfants sont comme ça si tu ne leur bourres pas la tête avec des trucs.
Si tu ne leur bourres pas la tête avec des problèmes d'adultes, quoi.
Mais c'est ça. Tu leur dis un truc, ils l'admettent comme ils admettent tout le reste, quoi.
Mm-mm.
Quand ils demandent pourquoi le ciel est bleu et que tu expliques, ils l'admettent, même si tu dis des conneries. Donc, si tu leur dis, il y a des gens qui... Christelle avait rencontré ma fille il y a un petit moment, elle était jeune. Ma fille, elle... Christelle est une personne qu'elle connaît et ça s'arrête là, quoi. C'est pas plus important que ça dans sa vie, de savoir qu'il y a des gens qui...
Je pense que plus il y a de représentation de ça dans leur, dans leur quotidien, dans les livres, dans les jeux, dans un peu tout. Et plus, bah, c'est un non-événement, en fait.
Oui, c'est ça. Mais je pense que pour introduire ça, pour revenir à ta question de comment on peut l'introduire pour des enfants, la question du genre ou l'absence de question du genre ou ces questions-là, on n'est pas obligé de le faire de façon hyper frontale en disant dans un livre bidule truc, ce personnage. Je pense que ce serait bien de le faire, mais on sait que ça va faire des leviers de bouclier. Dire tel personnage n'a pas de genre, Yel s'appelle machin truc. Je pense que tu peux aussi juste tout simplement ne pas genrer un personnage et le laisser vivre auprès des enfants et ça passe beaucoup plus crème auprès des adultes, tu vois. Par exemple, hein, c'est le genre de chose qui peut être possible. Moi, j'avais un livre dont vous êtes le héros quand j'étais petite sous forme de BD. Le personnage principal était un enfant qui s'appelait Camille et au début de la BD, il y avait... si tu veux que Camille soit une fille, et tu vois, elle se prépare et elle range ses cheveux longs dans sa casquette. Et si tu veux que Camille soit un garçon, bah en fait, il se prépare et il n'a pas les cheveux longs et il met sa casquette. Et à la fin, pour tout le reste de l'histoire, eh ben, Camille, c'est qui tu veux que ce soit. Voilà.
C'est chou.
Et c'était aussi simple que ça. Pardon, Mommy, tu avais une question. Nous allons te laisser parler désormais.
Ouais, non, du coup, je voulais... entendre un peu Crystal sur la transidentité dans le jeu de rôle, plus précisément. Moi, je pense que c'est une expérience qu'on a eue ensemble sur Arcana de Ambre, édité par Angel JDR, où en fait, on joue des personnages dont l'âme habite un corps qui n'est pas le sien. Et je pense qu'à ce moment-là, peut se poser des questions justement de... transidentité, est-ce qu'on est bien en accord avec son apparence et qu'est-ce que ça implique? C'est quoi, toi, tes expériences et les jeux qui t'ont permis d'expérimenter ton genre?
Moi, ça a toujours été un mélange entre les jeux et les tables. Je pense que j'ai eu des parties de symbiose qui étaient très euphorisantes, tout simplement parce que Yves et Bellefeuille, avec qui je jouais, me laissaient jouer tout ce que j'avais envie de jouer. Et ça voulait pas dire qu'il se passait des choses très intenses dans l'histoire, mais en moi, il se passait beaucoup de choses. Je pense que l'expérience la plus euphorisante que j'ai eue a été aussi... donc là, on va déborder un peu, parce que c'est pas que une question de genre, mais de pouvoir jouer une meuf sadique qui fout le bordel dans les relations des autres dans une partie de Monster Heart... avec Mommy, Laurie et Scoogey. Et où là, j'ai senti que je pouvais disposer d'un espace, alors pas illimité, parce qu'on joue avec d'autres personnes et le but n'est pas que... Mais en tout cas, j'avais une espèce de colère de jeune fille que je ne voulais pas explorer dans IRL, parce que je ne voulais pas que cette colère retombe sur des gens. Et le fait de bénéficier d'un espace fictionnel ou d'un espace ludique qui me permette d'être une fée qui manipule les gens en leur faisant faire des promesses et en gagnant de l'ascendant à force de demander aux gens de leur faire des promesses qu'ils ou elles ne peuvent pas tenir a été très euphorisant. Et après, d'une manière beaucoup plus simple... le fait de régulièrement pouvoir jouer avec vous et d'être une femme qui est entourée de d'autres personnages pour se prendre la tête, pour vivre des romances ou pour mettre le bazar dans des relations toxiques m'ont apporté énormément de forêts de genre. Et moi, je dis toujours que ma transition, elle s'est beaucoup faite en récupérant des bouts de moi que les parties de jeux de rôle me permettaient de retrouver. Et en me disant que par contre, je ne vais pas laisser ça que dans l'univers fictionnel, je vais les intégrer pour continuer à devenir cette personne que j'ai besoin de devenir pour être bien au quotidien. Donc moi, j'ai vraiment vécu, ou je vis peut-être moins maintenant, mais je vis beaucoup l'expérience des jeux de rôle comme un entraînement à devenir soi. Et je vois toutes les phases par lesquelles je suis passé, où pendant un an ou deux, je jouais beaucoup la meilleure pote que tu puisses avoir, qui est toujours là pour toi, qui est une espèce de maman, amie, qui vient même un peu aider la personne qui mène depuis l'intérieur en jouant en play to lift et d'arriver au bout de ça et de me dire « Ah oui, mais en fait, maintenant, je veux jouer une personne qui a envie de foutre le feu. » Et pour revenir à cette campagne d'Arcana dont tu parles, Mommy, Bah, tu ne voulais pas qu'on foute le feu.
Oups.
Mais en tout cas, c'était clair que mon personnage avait envie de mettre le feu. Est-ce que ça répond à ta question, Mommy? Ou est-ce que c'est
ouais,
à côté?
Ouais, grave. Mais du coup, moi, c'est pareil, mais peut-être dans l'autre sens. Moi, je pense que jeu de rôle, ça m'a aussi aidé à expérimenter des masculinités que je ne m'autorisais peut-être pas à habiter. Et effectivement, bah, récupérer des morceaux pour moi ou à l'inverse, bah, quand j'essayais des trucs en vrai, bah, des fois, je testais qu'est-ce que ça pouvait donner à l'extrême dans le jeu de rôle ou enfin, essayer de moduler cette question-là intérieure. Et en même temps, je me retrouve dans ce que Mist et Farfa disent où je pense qu'il y a des moments où dans le jeu de rôle, c'est comme si il y a des barrières qui tombent et en fait, on se rend compte de la vulnérabilité du moment qui arrive un peu de nulle part. Et tu dis, ah ok, c'est ça en fait. D'un coup, t'es traversé par quelque chose dont tu attends pas sur toi, sur que tu ne contrôles pas. Et c'est là que tu vas te questionner sur l'intériorité. Donc, je me retrouve un peu dans ce que vous dites toutes et tous.
C'est marrant parce que...
Le monde.
Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui est aussi un mec cis qui m'a dit ça, que je ne vais pas citer, mais vous devriez savoir ce qu'il sait, que même en étant parfaitement cis et tout, c'est important et précieux de pouvoir explorer ben, sa masculinité et que explorer son genre, ce n'est pas que pour les gens en questionnement ou en transition, c'est aussi intéressant pour les personnes cis d'explorer plusieurs formes de masculinité ou de féminité grâce au jeu de rôle. Donc ça rejoint ce que tu dis, Mommy.
Je pense que c'est super important à dire, ouais.
Ça m'amène à ce point où on ne sera pas du tout obligé d'être d'accord. Le trouble dans les règles, ce que les mécaniques font aux identités, des choses qui m'ont donné des euphories d'appartenance très fortes, mais qui m'ont aussi mis le cerveau au travail, c'est les jeux qui vont proposer de faire le world building ensemble. Donc ma théorie, c'est de dire que à partir du moment où il va falloir accepter au moins une proposition de tout le monde autour de la table pour fabriquer l'univers, ça va mettre à l'épreuve le fait que à un moment j'avais une idée très arrêtée sur le monde que je projetais dans mon cerveau, et il va falloir que je lâche prise pour pouvoir intégrer les éléments des autres jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous permette de fabriquer une histoire et de la vivre à travers des rôles tous ensemble. Voilà, du coup, peut-être que je vais essayer de transformer ça en question et de dire, est-ce que sur cette idée de... Est-ce que le jeu de rôle, ça peut être un média ou un médium pour faciliter des apprentissages, au même titre que ça peut être un média ou un médium pour vivre des euphories? Est-ce que la question du world building collectif est pas aussi une manière de faire péter des binarités, comme une sorte de gymnastique qui implique qu'on lâche prise sur des besoins, sur des certitudes, pour pouvoir intégrer les éléments des autres? Pour moi, c'est beaucoup lié. L'exercice du world building collectif, c'est un exercice de coexistence et de tolérance. Et où, pour le coup, par-delà des questions de genre, bah, cette question du world building, elle permet de s'entraîner à mettre l'imaginaire à l'épreuve pour pouvoir combiner des imaginaires et qu'on puisse exister tous et tout ensemble.
Ouais. Pour reprendre les mots de Simon Lee, le sage, faire des jeux queer et indépendants, c'est aussi participer à la guerre culturelle, en fait, pour faire vivre nos imaginaires, nos univers et bah, justement nos identités en réalité. Parce que c'est à travers l'imaginaire et à travers les pensées qu'on va pouvoir construire cette réalité de on existe et on est là et en fait on mérite d'avoir de prendre de la place. Et si on arrive à prendre cette place dans le fictionnel, et ben peut-être qu'on peut arriver aussi à prendre de la place dans le réel.
Est-ce que ça vous parle, Mist et Farfa, cette idée du world building oui. comme gymnastique d'inclusion et de coexistence?
Oui. Oui, ça me parle. De pas tout contrôler, effectivement, d'accepter une certaine prise de risque. Et qu'au final, bah, c'est une expérience cool, quoi.
Je pense que c'est intéressant comme théorie, considération, je sais pas. Parce que, effectivement,
construire l'univers ensemble, ça mélange un peu les intériorités dans un sens. Et donc, on est obligé d'accepter des éléments venant des autres. Donc, on est obligé d'accepter de pas forcément tout comprendre ou de pas forcément tout visualiser du premier coup, de pas forcément tout appréhender du premier coup dans l'univers même. Donc du coup, je pense que ça, ouais, il y a moins cette binarité de moi et l'extérieur. Du coup, il y a un peu nous puisqu'on construit l'univers ensemble. Donc ça mélange un peu plus les frontières, quoi.
Il y a aussi la question de est-ce que incarner quelque chose de non humain comme le vent, comme des phénomènes météorologiques ou des paysages, c'est des expériences de genre et de transition ou pas. Je pense à des jeux comme
La Grive Noire.
La Grive Noire, The Ground Itself de Everest Pipkin. Ou voilà, est-ce que le fait de jouer du non humain, ça vient vous offrir la possibilité de faire des expériences de genre ou d'absence de genre qui vous font du bien?
Il y a des jeux aussi comme A Quiet Year, pardon pour la prononciation, où on joue une communauté en mode survie un peu. Et du coup, on joue un groupe d'humains, on ne joue pas un humain. Donc je pense que ça peut participer un peu à ça aussi. Et pour moi, je dirais oui. Oui, ça peut offrir une autre perspective et donc permettre de sortir du genre, je dirais.
Alors moi, j'ai pas vraiment d'expérience de jeu où j'ai incarné, du non-vivant, au sens biologique du terme. Parce que là, tu parlais du vent, de paysage, ce genre de choses. Bon, Miss, toi, tu parlais de communauté de gens, donc c'est encore différent. Et ça, moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester ça. Donc les expériences que j'ai, c'est de jouer des êtres qui n'existent simplement et purement pas dans un univers où les humains existent aussi. Donc on pourrait peut-être, enfin je sais pas si on peut parler de xénogenre parce que c'est même pas vraiment un genre, c'est, et ça me fait expérimenter certaines choses, mais pas au niveau du genre pour moi, dans mon expérience et dans mon dans mon ressenti à moi, c'était pas le genre que ça a été touché. Mais ça a été touché la question de la différence, par contre. Ça, oui. Mais une autre sorte de différence.
Je suis plutôt d'accord, ouais. Et pour moi, incarner un concept où le genre n'est pas une question, ouais, c'est pas la même chose. Je pense que dans ce cadre-là, par contre, on peut attribuer des attitudes ou des choses genrées, hein. Tu vois, par exemple, si t'incarnes un vent, ça peut être un vent meurtrier, un vent guerrier. Donc, tu vas peut-être puiser beaucoup dans la masculinité, par exemple, ou à l'inverse. Enfin, tu peux jouer avec ça. Mais peut-être que on va aller dans le surjeu où il y a un côté un peu drague. C'est-à-dire que tu vas essayer de caricaturer, en fait, le genre plutôt que de l'incarner. Je sais pas si l'analogie est bonne, mais moi, ça me fait penser à ça.
Je trouve ça intéressant. En tout cas, je trouve ça plutôt clair, ce que tu dis.
Ouais, moi aussi. Moi, j'ai souvenir d'un jeu que j'avais créé avec des copains qui s'appelle Story Caring. Et on avait joué une scène où j'étais une source d'eau chaude, hybridée avec un bout de la forêt. Et il y avait un personnage qui s'appelait la Grande Ordonnatrice, qui était l'espèce de reine prêtresse qui venait se baigner dans moi, et ça avait été une très grande expérience de narration sensuelle que j'avais pas vu venir, voilà, en essayant de me projeter dans du non-humain. Est-ce que ça vous dirait qu'on conclue par l'espèce de petit manifeste qu'on avait écrit sur la première session?
Ouais.
Et ben peut-être que chacun peut lire ce qu'elle avait écrit la dernière fois, à savoir qu'est-ce qu'on réclame comme jeu pour nos queerness.
Je vais commencer. Le jeu pose clairement la queerness pour lui donner une réalité, acter le fait que cela soit possible, que la table comme les systèmes puissent offrir des cadres sécurisants pour traverser de la vulnérabilité, des moments de vulnérabilité, et des jeux où le genre est une part du personnage, sans le réduire pour autant à son genre. C'est-à-dire que, ok, le personnage a un genre ou pas, mais c'est pas la seule chose qu'il définit. Loin de là.
Mami ?
Alors moi, ce que je veux pour nos jeux, c'est des jeux optimistes, des relations et des histoires queer positives et empouvoirantes. Casser les stéréotypes de gens marginalisés qui souffrent. Sortir la queerness de la souffrance de manière positive et inclusive.
Mist ?
Ce que je veux, c'est la possibilité et l'espace d'explorer des questions de genre. Des jeux qui permettent de sortir d'une certaine forme de binarité.
Et moi, j'avais envie de jeux qui offrent des worldbuilding dont les mondes changent et sont en instabilité narrative ou esthétique pour créer des expériences de trouble et de lâcher prise sur l'incertitude. Des jeux et des cadres qui permettent de s'incorporer dans des identités émotionnelles, autres, différentes et queer. J'ai une expérience à vous proposer de 5 minutes. Un exercice d'écriture de 5 minutes. C'est quelque chose que j'ai écrit pour une journée d'études. Donc c'est un moment où des personnes de l'université se retrouvent sur une journée ou une demi-journée. Et donc, pour essayer de faire comprendre une partie des choses que je vous ai racontées là, j'avais proposé un exercice d'écriture où on imaginait être en train de s'écrire un SMS à soi-même dans les toilettes d'une boîte de nuit. Parce que moi, j'ai une grande passion pour l'imaginaire des boîtes de nuit, ce qui n'est pas la même chose que d'aimer aller en boîte de nuit. C'est vraiment deux choses très différentes. J'ai mon petit jeu. Les personnes qui nous écouteront, nous vous invitons à aller regarder dans la description pour voir une série de 5 questions. Ce jeu s'appelle « Et maintenant que tu es ici, quel est ton nom ?» Donc, je vais aller chercher une petite piste de musique techno. Et l'idée est de faire une espèce de fiche de personnage sur de la musique techno. Comme si vous étiez dans les toilettes d'un club et que des gens tapent à la porte pour aller aux toilettes et vous mettre la pression. Donc, c'est un exercice d'écriture avec un peu de stress. Ça ne dure que 5 minutes. Est-ce que tout le monde se sent l'envie de faire cette expérience? Parce que c'est pas obligatoire pour tout le monde.
Oui,
je vais essayer, parce que je trouve ça intéressant à essayer. Je promets pas d'y arriver, notamment parce que j'ai aucune expérience en boîte de nuit. Donc, j'en ai une représentation très... Mais c'est pas grave, t'as dit que c'était l'imaginaire de la boîte de nuit.
Exactement, donc, oui, exactement.
Pas poser problème.
C'est pas la même chose.
Donc, idéalement, vous faites ça sur une note dans votre téléphone pour taper avec vos pouces. Mais si vous voulez prendre un crayon à papier, vous pouvez prendre un crayon à papier. Si vous voulez taper sur votre ordinateur, vous pouvez taper sur votre ordinateur. Et moi, toutes les minutes, je vais vous mettre la pression. Je dirais des trucs du style « j'ai envie d'aller aux toilettes, ouvrez la porte, sortez !» Voilà. C'est juste pour créer un faux stress, pour que ce soit une expérience très intense, mais très courte, puisque ça va durer que 5 minutes.
Ok.
Est-ce que vous êtes prêts ?
Ouais.
C'est parti, vous êtes aux toilettes et vous avez 4 minutes 50 pour vous envoyer un texto à vous-même en répondant aux 5 questions que les auditeuristes découvriront dans les commentaires. Est-ce que ce serait possible?
Oui, excusez-moi, est-ce que ce serait vraiment... J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes, est-ce que vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Y'a quelqu'un ? Je suis pas toute seule. Commence à y avoir un peu la queue là, ce serait bien que vous fassiez quelque chose. Oui. Je vais aller chercher la sécurité là. C'est plus possible là. Là, il y a une file d'attente jusqu'au dance floor. Vous comprenez bien que.
Voilà. C'était le jeu I Know That You're Here. What's your name? Eh bien, vous venez d'écouter Radio Rôliste sur les représentations et les vécus LGBTQIA+ dans les jeux de rôle. Et vous venez d'entendre les voix de...
Eden.
Ember, avec un E.
Supernova.
Et Futur.